Bonjour. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Donc, Liliane et Hélène. Ce soir, exceptionnellement, une émission sur des gens du territoire qui s'engagent par rapport à la Palestine. Hein, c'est ça ?
C'est ça.
J'ai bien résumé. Alors, vous faites partie de deux choses qui sont communes. L'AFPS et un collectif qui fonctionne avec l'AFPS pour soutenir en fait tout ce qui se passe que l'on ne sait jamais, on ne nous dit plus du tout dans les médias ce qui se passe en Palestine, et voilà, vous êtes engagé là-dessus. Les dates dans ce qui vient tout de suite là, c'est quoi? Il y a des dates particulières, le 1er, le 2 et le 9 qui nous vient, mai.
Oui, effectivement, le 1er mai. Nous allons tenir un stand donc pour la Palestine sur la place du Château à l'occasion de la journée du 1er mai avec des syndicats, des organisations de travailleurs et travailleuses. Et donc la journée va s'étaler de midi, je crois, jusqu'en milieu fin d'après-midi après une manifestation marché dans les rues d'Aubenas.
Voilà. Le 2 mai, exceptionnellement, il n'y aura pas de rassemblement le samedi à l'Agora. Par contre, le 9 mai, il y aura une manif.
Voilà, comme...
Approche-toi un peu.
Donc le 9 mai, comme tous les deuxièmes samedis du mois, nous ferons une manifestation marché, là aussi, dans les rues d'Aubenas, sur le thème de la Palestine et de ce qui se passe plus généralement au Moyen-Orient. Désormais, la question s'est élargie considérablement. Voilà, donc on signale bien que, contrairement à tous les samedis matins, le samedi matin 2 mai, il n'y aura pas de rassemblement, étant donné qu'il y aura déjà eu des actions la veille. Voilà. Mais le 9 mai, on sera là.
Alors, ces rassemblements, manifs, etc., tout ça, c'est mené par l'AFPS et ce fameux collectif dont on parlait tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est?
Bon, moi,
non,
je peux
déjà
parler.
AFPS,
j'en fais partie. Donc, l'AFPS, c'est l'association France-Palestine Solidarité, qui est une association nationale de soutien à la Palestine. Voilà. Dont le collectif est une émanation. Donc, je laisse Hélène parler du collectif.
Alors, le collectif qui s'appelle très précisément Collectif Solidarité Palestine d'Ardèche Méridionale. Donc, il regroupe des associations, des syndicats, des organisations diverses et des individuels, des particuliers. On se réunit une fois par mois, le troisième mercredi du mois, au pôle de service à Aubenas, à partir de 17h45. Et voilà, pour débattre de l'actualité et des diverses actions que nous menons au sein du collectif.
D'accord. Alors, rassemblement, action, festival aussi.
Alors, quelles sont les actions que font le collectif? Donc, essentiellement, outre ce fameux rassemblement du samedi matin dont nous venons de vous parler, de la manifestation mensuelle le deuxième samedi, nous avons un point fort, c'est notre festival appelé Palestine en vue, qui est un festival de cinéma dans le cadre... d'ailleurs de la région Rhône-Alpes. Hein. Ce festival projette en général 4 films pendant 4 jours au cinéma Le Navire à Aubenas. Et il se déroule au printemps en général. Il est arrivé d'ailleurs qu'on ait eu un monde fou et qu'on soit obligé de refuser du monde. Cette année-là, la promotion 2026 a été un petit peu moins nombreuse, mais les films étaient d'une qualité exceptionnelle.
Oui, très bonne qualité.
Ouais, ouais,
ouais. Super.
Cela dit, ce ne sont pas les seules projections de films que nous faisons. Il y en a dans l'année quelques autres. Par ailleurs, nous faisons aussi d'autres activités. Hélène, sur les conférences et les réunions, tu peux en parler?
Oui, alors l'année dernière, par exemple, lorsque l'occasion se présente, bien entendu, nous avons accueilli une paysanne de la Confédération paysanne, Fanny Métras, si mes souvenirs sont bons, qui est partie avec quelques membres d'une organisation dont j'ai oublié le nom.
Via Campesina.
Via Campesina, exactement. Donc, elle est partie à l'occasion de la récolte des olives en Palestine, en Cisjordanie, exactement. Et elle est venue faire une petite conférence qui a attiré énormément de monde. On était, je crois, près d'une centaine.
C'était de qualité. Hein.
C'était une conférence d'une très grande qualité. Et on a pu avoir en duplex la personne référente le Palestinien qui répondait aux questions éventuelles des personnes venues là à la conférence.
Voilà, alors on a fait un tout petit peu le tour, on n'a pas trop le temps de développer. On voulait parler aussi de la solidarité avec le Moyen-Orient, en fait. Hein. C'est, Hélène, tu voulais un petit peu nous expliquer mieux. Voilà.
Oui. Alors, en effet, cette émission s'appelant Solidaire d'abord, il nous a semblé important de manifester, de témoigner de notre solidarité envers les populations du Moyen-Orient qui, à l'heure actuelle, souffrent des guerres impérialistes déclenchées et menées par Israël et les USA, dans le silence complice d'ailleurs de la majorité des pays occidentaux, je le rappelle au passage. Et on va aujourd'hui s'attarder plus précisément à la Palestine. Et notamment, en ce qui me concerne, je voudrais parler des prisonniers politiques palestiniens.
Alors tu parles de ça aussi parce que le 17, il y a trois jours, c'était la journée des prisonniers palestiniens.
Voilà, exactement. Toutes les années, le 17 avril, c'est la journée internationale des prisonniers politiques palestiniens. Donc voilà, ça, il se trouvait que samedi, c'était ce jour-là. Et
Alors moi, je dis un tout petit mot sur Georges Ibrahim Abdallah, qui vient d'être libéré cette année, hein, après 40 ans d'emprisonnement. Enfin, c'est ahurissant, son histoire, parce qu'en plus, il était en prison, gardé en prison, sur demande des USA, hein, sur demande express des USA, parce que en fait, ça faisait longtemps qu'il était libérable. Mmh. Donc c'était invraisemblable que la France serve comme ça la soupe aux États-Unis en le gardant... Voilà, prisonnier, alors qu'il aurait dû être libéré depuis très longtemps. Et il y a un autre grand nom dont vous vouliez parler.
Oui, il y a un prisonnier célèbre, prisonnier palestinien célèbre, du nom de Marwan Barghouti, que l'on surnomme le Nelson Mandela de la Palestine, qui est emprisonné, lui, depuis 2004, hein, pour des raisons politiques, bien entendu. Et qui est une personne qui, très vraisemblablement, effraie Israël, car selon un des chefs du renseignement intérieur israélien, le Shin Bet, Marwan Barghouti serait à l'heure actuelle le seul dirigeant palestinien capable de diriger un leadership uni dans la totalité de la Palestine, étant donné le consensus qu'il entraîne avec lui parmi toutes les factions politiques palestiniennes.
Il fédère et donc il effraie. Hein.
Voilà, il fédère, donc il effraie, exactement.
Et alors, tu disais qu'il a été tabassé récemment.
Oui. Alors justement, ces derniers jours, là, c'est la semaine dernière, ses proches ont alerté sur le fait qu'il a été tabassé sérieusement en prison à plusieurs reprises. Il a été attaqué par des chiens, mais des chiens qui sont dressés par les militaires palestiniens pour blesser les prisonniers. Hein. Et étant donné qu'il n'a droit à aucun soin médical, il est en ce moment en danger réel selon ses proches et sa famille.
Alors il y a quand même, c'est récurrent quand même cette attitude par rapport aux Palestiniens qui se retrouvent prisonniers en Israël, hein, puisque tu citais un chiffre depuis 1967, c'est ahurissant.
Exactement, depuis 1967, on a dénombré 950 000 prisonniers palestiniens. Tout Palestinien avait dans sa famille quelqu'un qui avait été emprisonné.
Et donc en détention administrative. C'est ça la façon dont ils détournent la loi, en fait.
C'est
parce
ça,
que là,
voilà.
C'est pas légal.
La détention administrative, c'est pas compliqué. C'est l'emprisonnement de façon arbitraire, sans inculpation, sans aucune charge et sans jugement. Mmh. Et ça, ce sont deux principes qui violent le droit international, chose habituel pour Israël.
Les conditions de détention sont absolument terribles. Hein. Donc, tu as parlé là pour Marwan Barghouti,
voilà,
des chiens. Mais il peut y avoir même des sévices sexuels.
Exactement. Des agressions sexuelles avec des objets, des viols. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez sordide. Mais il y a également le manque de nourriture, le manque d'eau. Le manque de soins également, parce qu'il y a des prisonniers qui souffrent, qui ont besoin de traitement, donc tout ça leur est dénié, hein. Et l'isolement prolongé, hein. Très souvent ils sont isolés pendant de longues périodes et ne peuvent pas voir leur famille.
Sur l'hygiène aussi, tu disais.
Oui, une absence quasi totale d'hygiène pour les prisonniers, quoi.
Après, tu développais des détails pas très sympas sur justement les familles quand elles viennent visiter.
Oui, alors, étant donné qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont emprisonnés aussi, ça, il faut le signaler, beaucoup de mineurs, les militaires peuvent, enfin, et le pratiquent assez souvent, c'est-à-dire qu'ils vont voir les familles de ces enfants et ils font pression sur eux pour demander de l'argent. Probablement pour alléger les peines des enfants, notamment pour leur rendre peut-être la vie plus facile. Et donc c'est encore un moyen de pression et de déshumanisation des Palestiniens.
Liliane, c'est toi qui parlais de la mairesse de Bethléem.
Donc j'ai lu récemment un livre écrit par la mairesse, enfin, la femme mère de Bethléem, j'aime pas trop dire mairesse, qui a elle-même vu son mari emprisonné en détention administrative pour 3 ans, comme ça, sans savoir pourquoi. D'ailleurs, un jour, ils sont venus dans la nuit. Et donc, elle raconte à quel point c'était difficile de rendre visite à son mari, et à quel point il était déshumanisé, à quel point elle craignait qu'au bout des 3 années passées en détention administrative, il ait à faire 3 années de plus s'il ne pouvait pas fournir une caution énorme les permettant de le libérer, quoi.
Alors après, il y a 3 rapports qui sont sortis. Donc il y en a un qui s'appelle « Bienvenue en enfer ». Ça situe bien le tableau.
Exact. Hein. Il y a eu plusieurs rapports qui ont dénoncé ce système carcéral. Le premier, donc, que je cite, c'est Tselem, hein, qui est une ONG israélienne pour les droits des Palestiniens, qui s'appelle effectivement ce rapport « Bienvenue en enfer ». Ensuite, il y a un rapport de la célèbre Francesca Albanese, qui est une rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés. Et ce rapport s'appelle « Torture et génocide ». Et puis le troisième rapport que je voudrais citer également, c'est l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, qui lui s'intitule « Un autre génocide derrière les murs ». Ces rapports, on les trouve assez facilement sur Internet.
Alors tout ça nous amène à parler de la loi Yadan, parce que là, on est en train de parler de la légalité ou de l'illégalité. Et c'est vrai que là, on se retrouve avec toutes les péripéties diverses qui ont été liées à cette loi Yadan, voilà, à parler du droit et de la façon dont il est maltraité.
Oui, donc cette fois-ci, nous nous retrouvons en France avec une énorme controverse qui a eu lieu ces derniers temps, qui s'est apaisée pour le moment, mais qui pourrait repartir. Donc il s'agit d'une proposition de loi qui était partie d'un constat que personne ne remet en cause, c'est la recrudescence des actes antisémites depuis octobre 2023. Mais cette proposition de loi a été déposée par une certaine Caroline Yadan, qui est une députée macroniste, et qui est élu sur la circonscription qui contient Israël, mais qui est plutôt une farouche propagandiste de l'État d'Israël. En effet, cette proposition de loi destinée en principe à lutter contre, je cite, les formes renouvelées d'antisémitisme, est plutôt destinée à lutter contre toute critique authentique de l'État d'Israël.
Alors là, il y a un mot, par exemple, qui apparaît dans cette loi et qui a fait bondir même les juristes, hein, c'est le côté implicite.
Voilà.
C'est-à-dire maintenant, t'es supposé méchant.
Voilà. Cette loi introduit des nouveaux délits qui font bondir les juristes. Par exemple, provocation directe, même implicite, à des actes de terrorisme. Que signifie implicite ? Est-ce que les juristes... que devra faire le juge ? C'est ce qu'on appelle une zone grise. En effet, comment le juge va pouvoir juger les intentions réelles de l'accusé? Il faudra qu'il les ausculte, qu'il les sonde. Ça laisse la place à toute une marge de subjectivité qui rend impossible son travail et qui fait de plus courir le risque qu'un juge mal intentionné ou de droite puisse alourdir la charge par rapport à un autre juge qui serait plus sensible à la cause palestinienne.
Alors, il y a eu beaucoup d'opposition à cette loi, il y a eu des contestations, etc. Tu peux nous en parler peut-être?
Voilà, donc il y a eu évidemment une opposition monstre provenant provenant de la gauche, des parlementaires de gauche qui se sont élevés contre elle, et en particulier la France Insoumise. Mais se sont joints à eux aussi le MoDem, et actuellement, on sent même une fracture dans le rang des macronistes.
Ouais.
Le syndicat de la magistrature s'est élevé contre ça. Il y a eu 5 rapporteurs des Nations Unies qui ont interpellé la France et qui considèrent qu'il y a une confusion entre la critique d'un État et le racisme.
Alors, il y a eu une pétition aussi. Hein,
Alors là, il y a eu une pétition. L'affaire est comique. Une pétition qui a rassemblé plus de 700 000 signatures. Le chiffre ne faisait que monter chaque jour jusqu'à ce que le compteur soit bloqué. Il a été bloqué parce que la commission des lois a, je cite, « classé sans suite cette pétition ». Juste avant l'examen de la proposition de loi. Donc voilà, donc cette commission de loi, on s'est assis dessus. Ça, c'était pourtant la pétition la plus signée après celle de la loi Duplomb. Mais si elle n'avait pas été bloquée, rien ne dit qu'elle n'aurait pas dépassé la pétition contre la loi Duplomb.
Au niveau du nombre. Voilà. Alors où en est-on maintenant par rapport à cette loi Yadan qu'ils ont retirée momentanément?
Coup de théâtre à l'Assemblée. Après, bien sûr, le classement sans suite de la pétition, il y a eu aussi le fait que la proposition de loi a été retirée par les macronistes. Alors, le prétexte, c'était l'obstruction de LFI. Mais bon, c'est surtout, je pense, qu'ils commencent à paniquer et qu'ils sentent que l'atmosphère commence à chauffer et qu'ils préfèrent attendre un peu. Donc, ils ont proposé que l'on examine cette proposition de loi sous une autre forme, ça serait un projet de loi gouvernemental cette fois-ci, et ça serait présenté en juin. Voilà. Alors ce texte sera présenté d'abord au Sénat, où il est fort probable qu'il sera voté, puisque le Sénat est à droite, puis il arrivera devant l'Assemblée. Et alors le comique de la situation, c'est que beaucoup d'analystes disent qu'en réalité, le bloc central, c'est-à-dire les macronistes, vont rejeter eux-mêmes leur propre texte. En effet, oui. Ils ne souhaitent pas un débat. Donc, ils souhaitent que ça ne soit pas présenté à l'Assemblée. Ça sera alors présenté, évidemment, devant ce qu'on appelle une commission paritaire mixte.
Alors, donc, cette commission paritaire, où ils savent qu'ils ont l'avantage, parce que cette commission paritaire, c'est des gens du Sénat et des gens de l'Assemblée. Voilà. Mais au total, évidemment, il y a plus d'élus de droite que...
La gauche est minoritaire, ça pourrait passer. C'est pour ça que la mobilisation doit continuer.
C'est la colossale finesse de l'État français depuis quelques temps. Hein,
enfin, ça a été utilisé plusieurs fois, cette tactique.
C'est invraisemblable. Bon, voilà, on va rester vigilant par rapport à tout ça. Hein. On va essayer. Alors, tu voulais nous parler aussi de la peine de mort.
Oui, hein, en effet.
C'est-à-dire, comment, voilà, cette peine de mort qui a été abolie à un moment. Alors, je ne sais plus, tu citais
c'était
les dates.
C'était en 1952, si mes souvenirs sont bons, si les souvenirs de mes lectures sont bons.
Oui.
Mais elle a donc été à nouveau promulguée là, le 30 mars dernier par le Parlement israélien, la Knesset.
Oui.
Et donc le cadre général de cette loi prévoit que toute personne, et là j'ouvre les guillemets parce que je cite le texte, qui cause intentionnellement la mort d'une autre personne dans le but de porter atteinte à un citoyen ou résident israélien, avec l'intention de mettre fin à l'existence de l'État d'Israël, sera condamné à mort ou à la prison à perpétuité. Ça, c'est le cadre général. Pour les Cisjordaniens, ce sera la peine de mort systématique, c'est-à-dire sans autre forme de procès.
Tu n'as pas dit le mot, mais le mot implicite est là aussi. C'est-à-dire que de toute façon, il suffira qu'on suppose que quelqu'un est malveillant.
Exactement, hein, exactement. Oui. Et donc là, on est en présence d'un marqueur supplémentaire flagrant de l'apartheid israélien, puisque cette loi ne s'adressera pas aux Israéliens, bien entendu.
Ouais. Bon, voilà, tu insistais en nous expliquant tout à l'heure, quand on préparait, que c'est la seule loi où on parle de race,
Oui,
en fait.
exactement. C'est la seule loi sur la peine de mort au monde qui utilise, dans les faits, hein, le critère de race pour déterminer à qui cette loi s'applique et à qui elle ne s'applique pas. Donc c'est là qu'on est dans un système véritablement odieux, raciste.
Et en plus, ils en profitent au passage pour absoudre tous les soldats israéliens.
Oui, alors c'est peut-être une coïncidence, mais je n'y crois pas trop. Mais le même mois où cette loi a été promulguée, toutes les charges contre les militaires israéliens accusés de viol sur les prisonniers palestiniens, toutes ces charges seront abandonnées. Donc voilà, d'un côté, on disculpe ces militaires, de l'autre, on propose la peine de mort pour les Palestiniens prisonniers.
Alors, bon, voilà, on a presque fini l'émission, mais Liliane, tu voulais nous parler de. En fait, la France a complètement changé de position par rapport au Moyen-Orient. C'était pas comme ça avant.
Si on compare la politique actuelle de la France avec celle des présidents d'avant, de Chirac ou de Gaulle, effectivement, il n'y a absolument aucune comparaison. Et on pourrait dire à l'heure actuelle que De Gaulle serait considéré comme un antisémite. Je vous cite pour l'illustrer cette phrase que j'ai toujours dans mon portefeuille parce que j'en reviens pas. C'est une phrase citée par le général De Gaulle, une phrase d'un de ses discours, je crois que c'est le discours de novembre 2027, de 1967, pardon, devant une conférence de presse. Je vous la cite donc, Charles De Gaulle. Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, sans répression et sans expulsion, et il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme.
Voilà, tout est dit là, hein,
Tout
par
est dit, je
rapport.
pense
Et
que là,
donc De
De
Gaulle
Gaulle était
disait ça.
visionnaire.
Bon, donc mettons De Gaulle en prison,
Mettons
hein.
De Gaulle en
Bon,
prison.
c'est pas possible quand même. Et alors après, tu voulais aussi revenir sur Albanaise,
Francesca Albanais, j'aimerais
hein.
bien dire un tout petit mot avant, parce que cette femme est absolument admirable. C'est donc la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires occupés. Et son rapport, il n'est évidemment pas si facile à consulter, mais elle est passée à beaucoup d'occasions dans les médias, dans des tas d'interviews. Notamment, j'en ai écouté une à midi de Daniel Mermet qui résume bien son rapport. Et cette expression, cette phrase qu'elle a eue qui m'a marquée, elle dit: ce qui a été le symbole du génocide nazi, ce sont les chambres à gaz. Ce qui a été le symbole du génocide au Rwanda, ce sont les machettes. Mais ce qui restera le symbole du génocide des Palestiniens, c'est la torture et en particulier le viol. Voilà ce que pense Francesca Albanese, dont le rapport porte sur la torture en prison. Voilà. Elle reconnaît elle-même que des enquêtes sont parfois ouvertes par Israël lui-même sur les tortures, parce que de temps en temps, l'état de droit, il faut bien le justifier. Mais dans tous les cas, la conclusion de l'enquête est toujours la même. Ils reconnaissent des blessures graves, mais en aucun cas des viols. Voilà.
Bon, alors Hélène, tu voulais nous lire un poème pour conclure
Oui,
cette émission?
si on a encore un peu de temps,
On
oui,
a le temps
je.
pour que tu nous lises ce poème.
Bon, alors, il s'agit d'un poème d'une poétesse de Nazareth qui s'appelle Darine Tatour. Et le poème que je vais vous lire, donc, c'est il lui a valu 5 mois de prison. Hein, 5 mois de prison parce que quand Israël se sent menacé, ben, il emprisonne.
Et comme quoi, il peut y avoir des poèmes qui valent de la prison aux gens.
Bien entendu,
La
bien
force des
entendu.
mots est encore là.
Oui,
Ça
parce
existe.
que on peut se dire qu'un poème qui peut vous envoyer en prison, ben c'est un poème qui est puissant.
Ben
Et
oui.
c'est probablement ce qu'ils ont ressenti à la lecture du poème que je vais vous lire à présent. Résiste, mon peuple, résiste-leur. À Jérusalem, je me suis habillée de mes blessures et j'ai respiré mes douleurs. Et j'ai porté l'âme dans ma paume pour une Palestine arabe. Je ne succomberai pas à la solution pacifique. Je ne baisserai pas mes drapeaux jusqu'à ce que je les expulse de ma terre. Je les ai mis de côté pour un moment qui va venir. Résiste, mon peuple, résiste-leur. Résiste au vol du colon et suit la caravane des martyrs. Déchire cette constitution honteuse qui a imposé dégradation et humiliation et nous a dissuadés de rétablir la justice. Ils ont brûlé des enfants innocents. Quant à Adil, ils l'ont abattu en public, tué en plein jour. Résiste, mon peuple, résiste-leur. Résiste à l'assaut du colonialiste. Ne fais pas attention à ces agents qui sont parmi nous, qui nous enchaînent avec l'illusion pacifique. Ne crains pas les langues qui doutent. La vérité dans ton cœur est plus forte, tant que tu résistes sur une terre qui a vécu les raids et la victoire. Alors Ali a appelé depuis sa tombe, « Résiste, mon peuple rebelle, écris-moi comme de la prose sur le bois d'Agar. Mes restes vous ont comme une réponse. Résiste, mon peuple, résiste-leur. Résiste, mon peuple, résiste-leur. »
Voilà, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir, merci.